Nous voulons te demander ce matin à rendre nos cœurs réceptifs à ta parole. Aide-nous à exalter Jésus dans nos cœurs. Aide-nous aussi à nous humilier devant lui, à l'écouter, à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de grimper à un cerisier et de cueillir des fruits, des cerises. Alors, je n'étais pas en train de chiper des fruits dans le jardin de quelqu'un. C'était mon ancien propriétaire qui, à son invitation, qui m'a demandé de monter dans l'arbre. Et je peux vous dire que dans l'ensemble, ces cerises, celles que j'ai cueillies, étaient excellentes, goûteuses, juteuses, succulentes. Dans l'ensemble, j'ai laissé les moins bonnes, celles que les oiseaux avaient partiellement mangées, je les ai laissées sur l'arbre. J'avais un réel sentiment de satisfaction. À force de grimper dans l'arbre, j'avais bien mérité ces cerises. Alors ici, en proche banlieue parisienne, ils ne sont pas très proches de la terre. Ils sont plutôt des citadins qui connaissent mieux les rayons de Simply Market ou qui se sentent plus à l'aise au marché du centre ou au marché des vallées, plus à l'aise que dans les champs de nos maraîchers. Toujours est-il que nous sommes attentifs à la qualité de nos fruits et la qualité de nos légumes. Alors Jésus nous dit que nous avons bien raison d'être sur nos gardes. Alors Jésus a dit, vers la fin de son sermon sur la montagne, « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Et Jésus résume un peu la portée et aussi la pertinence de notre passage de ce matin, le passage d'Antite. Un passage qui nous met en garde contre de mauvais arbres et de mauvais fruits. Alors, si vous n'avez pas pu être des nôtres ces deux dernières semaines, nous avons commencé une série de prédications dans cette petite lettre que l'apôtre Paul a écrite à son proche collaborateur, Tite. Il lui a confié une lourde responsabilité, celle de nommer des anciens, des responsables d'église dans chaque ville sur l'île de Crète, donc en Grèce. Il lui est demandé aussi d'être un exemple de ce que c'est un ancien, ce que c'est un chrétien mûr qui porte de bons fruits. Ou peut-être dans le vocabulaire de cette lettre, Paul parle beaucoup de belles œuvres. Le propos central de cette lettre tourne autour de l'idée de la vérité transformatrice, c'est-à-dire l'évangile de Jésus-Christ qui nous transforme par la grâce, cette grâce qui nous a donné l'espérance de la vie éternelle. L'évangile nous change pour que nous soyons des chrétiens mûrs qui portent de bons fruits et qui excellent à pratiquer de belles œuvres. Paul ne veut pas voir un christianisme moribond ou stérile sur l'île de Crète, mais un christianisme vivant, fécond, joyeux et pur. Il veut voir des chrétiens portant de bons fruits, des fruits qui les démarquent comme disciples, comme des disciples qui ressemblent de plus en plus à leur maître, Jésus lui-même. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de l'importance de bien choisir des responsables d'église. Il fallait choisir des anciens qui connaissent cet évangile transformateur et qui prouvent qu'ils le connaissent, de par la qualité des fruits qu'ils portent dans leur vie. Il ne s'agit pas de choisir de simples bons orateurs, de simples enseignants de doctrine, mais de choisir ceux dont les fruits montrent, de par leur qualité, que la doctrine qu'ils prêchent est vraiment celle qui vient de Dieu. L'inspection des fruits, c'est une sorte de garde-fou contre de mauvais enseignants, contre d'anciens fourvoyés. On peut même extrapoler ça au niveau de toute l'Église. Si un jour vous changez d'église, si Stephen va changer d'église, donc il va aller à Edimbourg, donc il va aller dans d'autres églises. Ou peut-être vous êtes là parce que ce matin, vous cherchez une église. Bah, inspectez le fruit de cette église. Est-ce que les personnes de l'église aiment la parole? Est-ce qu'ils essayent de s'aimer les uns les autres? Est-ce qu'ils se donnent du mal pour se servir les uns les autres, de manière concrète, de manière humble? Est-ce qu'ils ont envie de grandir en sainteté, en justice, en humilité, et ainsi de suite? Si oui, s'ils sont en train de faire quelques progrès dans ces domaines, il y a des chances que l'évangile de la grâce est à l'œuvre parmi eux. Les anciens de cette église sont en train d'enseigner la vérité et en train de réfuter ceux qui s'y opposent. Mais si ce n'est pas le cas, il y a peut-être d'autres conclusions à en tirer. Même s'il faut tenir compte de l'âge et du stade de développement d'une église, aucune église n'est parfaite, nous sommes tous en chemin. Alors, après avoir parlé des qualifications des anciens, des responsables fidèles, le texte ce matin nous donne le volet négatif. Il nous parle de ceux qui ne sont pas d'enseignants fidèles, de ceux que les anciens doivent réfuter. Est-ce que vous voyez donc au début du verset 10 deux petits mots, en effet ou car selon vos versions? Cela montre que ce passage est la suite logique du précédent. Nous allons l'aborder en quatre temps ce matin. On va d'abord se poser la question de savoir quelle était la gangrène, la maladie crétoise. Et ensuite, quels étaient les fruits pourris qui ont résulté. Et troisièmement, j'aimerais poursuivre quelques pistes de réflexion qui pourraient nous aider, nous, à repérer quelques maladies spirituelles de notre époque, de notre temps. Avant de conclure, dans le quatrième temps, avec une politique ou une campagne de vaccination, d'immunisation. Alors, la gangrène crétoise. Qu'est-ce qui se passait dans les églises de Crète? Qui étaient ces perturbateurs? Alors, le texte de l'apôtre Paul nous donne un certain nombre de détails sans pour autant nous dire tout. Le ton de ce qu'il dit est fort. Paul n'y va pas par quatre chemins. Au verset 11, il exhorte Tite à fermer la bouche à ces faux docteurs. Autrement dit, il faut que ces gens soient écartés du troupeau, pour le bien du troupeau. Et c'est vrai que par moments, les anciens doivent agir de manière décisive. Ce n'est vraiment pas quelque chose de facile. Alors pourquoi Tite doit-il passer à l'action? Parce que ces perturbateurs bouleversent de familles entières. Il y a des familles crétoises entières qui ont commencé à suivre les enseignements de ces gens. Alors peut-être que ces faux docteurs visaient certaines familles, essayant de créer des clans où l'enseignement pouvait prospérer. Je pense que dans nos petites églises francophones, nous sommes familiers avec la notion de famille dominante, de grande famille au sein d'une petite église. Il n'y a rien de tel pour diviser ou pour détruire une église que d'influencer une de ces familles avec un mauvais enseignement et de la dresser contre les autres. Au verset 10, Paul dit, « Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. » Voilà quelques premières indications, insoumis probablement à l'évangile lui-même, de francs tireurs qui s'écartent de l'orthodoxie de la foi reçue. Ils ont de nouvelles idées et prétendent savoir mieux que les apôtres, mieux que la parole elle-même, ou mieux que ceux qui enseignent la parole. Alors Paul met l'accent sur le discours. Il ne vient pas avec des actes, des gestes, un comportement qui recommande l'enseignement, mais avec de belles paroles. Et Paul dit, beaucoup d'entre eux sont d'origine juive, ils sont des circoncis, des gens qui avaient un lien avec le judaïsme de l'époque, des chrétiens d'origine juive. Cette époque, il y en avait beaucoup, là, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins. Alors, on voit ça au verset 14 aussi. Les chrétiens crétois qui ont reçu l'enseignement de ces faux docteurs se sont attachés aux fables juives, ou aux mythes juifs, Dans la première lettre à Timothée, donc juste avant, Paul parle de généalogie aussi. Sans doute, ces faux docteurs d'origine juive avaient toute une lecture de l'Ancien Testament qui les conduisait à spéculer sur plein de choses. Et c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent à l'église, ça arrive de temps en temps avec des théories un peu bizarres en parlant d'anges ou de signes de la fin des temps ou de combats spirituels, il convient d'être sur nos gardes et de revenir aux Écritures. Alors, notre texte ne dit rien sur la nature de ces fables. Il convient pour nous de ne pas trop spéculer non plus. En tout cas, on discerne un côté ascétique chez eux. Paul parle au verset 14 de commandements émis par des hommes. Et ensuite, des notions de pureté et d'impureté au verset 15. Sans doute, ces personnes mettaient l'accent sur des règles, des choses à faire ou à ne pas faire pour rester purs. Peut-être qu'ils étaient stricts quant aux vêtements à porter ou à ne pas porter, aux règles alimentaires qu'il fallait respecter pour garder la faveur de Dieu. Il se peut qu'ils aient eu une perspective négative de la sexualité, même au sein du mariage. C'est ce qu'on voit ailleurs dans le Nouveau Testament. Mais si on ne sait pas grand-chose sur ce qu'ils enseignaient, on sait un peu plus sur leurs fruits. Nous sommes à cette deuxième section. On discerne un faux docteur par son comportement, par son fruit. Car, comme Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. D'emblée, on peut dire que ces perturbateurs n'étaient pas comme les anciens que Tite devait nommer sur l'île de Crète. Donc, verset 16 nous dit, ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles, incompétents pour la moindre œuvre bonne. Pour les catégoriques, ce ne sont pas des chrétiens mûrs. Certes, ils peuvent parler, ils ont des théories, ils ont des règles strictes, ils ont l'air disciplinés, mais non, ils sont à côté de la plaque. Et ce sont leurs œuvres qui vont vous le montrer. Alors, dans le passage précédent, Paul avait énuméré les fruits à rechercher chez les responsables et aussi chez tout chrétien mûr. Positivement, il avait dit qu'il fallait qu'ils soient irréprochables, pas de tâches manifestes ou scandaleuses, hospitaliers, ayant un amour sincère pour ceux qui sont dans le besoin, amis du bien, réfléchis, justes, saints, maîtres d'eux-mêmes. Et négativement, pas arrogant, pas colérique, pas buveur, pas violent, pas attiré par le gain. Et dans ce cas précis, Paul met en avant le fait que ces faux docteurs étaient avides. Au verset 11, il évoque le fait qu'ils recherchaient un gain honteux. Ils cherchaient de l'argent. Le but ultime n'était pas l'édification des chrétiens. Ils n'étaient pas venus par simple amour de Dieu pour servir les chrétiens de manière désintéressée. Ils voulaient quelque chose. Et après un peu de temps, ça pouvait se discerner. Alors j'imagine que ces faux docteurs ne montraient pas toutes ces faiblesses, tous les mauvais fruits en même temps. Je pars du principe que tous ces mauvais fruits n'étaient pas forcément facilement identifiables au début. Sans doute ces gens avaient un certain charme, une certaine connaissance de la parole. Peut-être qu'ils savaient user de la flatterie, de compliments. Mais c'est avec le temps que ces fruits ont dû se manifester. Ailleurs, c'est écrit qu'il ne faut pas nommer des responsables d'église de manière hâtive. Il faut user de discernement. Il faut le temps, parce que c'est avec le temps que ces choses se manifestent. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui dans nos églises évangéliques? Qu'en est-il de nos églises? Alors, pendant la semaine, j'ai essayé de réfléchir à notre situation, ici en France, en Occident. Y a-t-il de la gangrène crétoise chez nous? Quels sont nos mythes judaïsants? Plutôt, quels sont nos mythes séculiers? Ça, c'est plutôt notre contexte. Quelles sont nos règles d'inspiration humaine? Qu'est-ce qui nous dévie de la foi saine? Alors, je vais suggérer deux évangiles, deux faux évangiles à éviter. Je pense qu'il y en a plein, mais en réfléchissant, j'ai pensé à ces deux, qui sont un peu tendance. On les ressent un peu dans l'air du temps. Et peut-être surtout, on les voit dans les librairies chrétiennes. Donc, ce faux évangile de la bénédiction et un faux évangile aussi de l'épanouissement psychologique. D'abord, le faux évangile de la bénédiction. Certains pasteurs et enseignants du milieu évangélique enseignent que Dieu promet de bénir les chrétiens obéissants sur le plan matériel, sur le plan professionnel, familial, émotionnel, et ainsi de suite. Chez eux, et chez ceux qui suivent cet enseignement, tout est axé sur la recherche de cette bénédiction. Et ça devient le but de la foi chrétienne, la préoccupation numéro un. Un aspect de cet enseignement, c'est la promesse de prospérité. Dieu récompenserait notre générosité financière avec des richesses matérielles dans cette vie. En gros, si vous donnez beaucoup d'argent à l'Église, bah Dieu va vous donner beaucoup d'argent à votre tour. C'est un mythe, c'est un mensonge qui gangrène nos milieux et nous détourne des richesses, les véritables, que nous avons en Jésus-Christ. Le pardon, l'adoption, la joie, le contentement, l'espérance, l'amitié avec Dieu, et ainsi de suite. Et ces richesses-là, on va les expérimenter encore plus pleinement au retour de Jésus. C'est un mensonge qui finit par produire de mauvais fruits. Ça saborde la foi sincère des chrétiens en les focalisant sur les richesses matérielles ou professionnelles ou familiales plutôt que sur les vraies richesses que nous avons en Jésus et que nous avons à voir encore plus en Jésus à son retour. Alors, le faux évangile de l'épanouissement psychologique est un peu apparenté à ce faux évangile de la bénédiction. Alors, la psychologie, l'étude de l'homme intérieur, de ses pensées, de ses sentiments, de ses comportements, est une science moderne en pleine expansion. Et dans l'ensemble, la psychologie peut être un outil très utile. Donc, je ne suis pas contre la psychologie. Mais comme pour tout, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Notre société occidentale et française est bercée dans le langage de la psychologie. Elle est un peu notre grille de lecture pour parler de la vie, pour parler de nos sentiments, pour parler de nos problèmes, et même pour parler de la foi chrétienne, de l'Église et de la foi. Il y a beaucoup à apprendre de la psychologie, mais il faut s'en servir avec précaution, car notre but en tant que chrétien n'est pas l'épanouissement psychologique ou le bien-être intérieur. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. C'est là que nous avons la santé en lui. Notre but est de ressembler à lui. Et c'est comme ça que nous honorons Dieu, notre Père. Et encore une fois, ce but va s'accomplir plus pleinement au retour de Jésus. Mais en attendant, nous sommes sur le chemin de la sanctification où nous nous soumettons de plus en plus à Jésus. Ça passe d'abord par la repentance et la foi. Cela passe par l'application de la grâce à nos cœurs. Cela n'exclut pas la psychologie. Elle peut être très utile. Mais cela nous met sur nos gardes. Notre but est ressembler à Jésus. Et ça passe par la repentance et la foi. Notre bonheur se trouve en Jésus. L'apôtre Paul s'est donné le but de gagner Christ, de connaître Christ et d'être trouvé en lui. Il ne faut pas se tromper de but. Alors, comment y faire face? Quatrième point. J'ai donné deux exemples, mais il y a sans doute d'autres exemples de mythes séculiers ou de règles humaines. J'aurais pu citer d'autres, mais comment faire face? Paul nous invite à ouvrir l'œil. Il sait que nous ne sommes pas toujours capables, pas tout le temps en tout cas, à d'identifier les erreurs théologiques, le mauvais enseignement qui va à l'encontre de la parole. Parfois, ce qu'on entend nous paraît au premier abord plausible, sage, spirituel et profond. Parfois, ce sont nos souffrances qui font que nous nous sentons attirés par certains discours pleins d'espoir. Parfois, c'est notre propre désobéissance qui fait que certains enseignements nous paraissent rassurants. Et parfois, les déceptions, peut-être parfois causées par l'Église elle-même, nous poussent à chercher des enclos différents. C'est pour ça que Paul nous met sur nos gardes. En règle générale, un mauvais enseignement finira tôt ou tard par produire de mauvais fruits. Et on verra ces fruits dans la vie de ses enseignants. C'est une logique incontournable, inévitable. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce si inévitable qu'un mauvais enseignement va donner de mauvais fruits? N'est-ce pas arrogant de la part des chrétiens de prétendre une telle chose? Que seulement leur évangile produit de bons fruits. Alors Paul dit ailleurs, dans sa lettre à l'église de Colosse, en Colossiens chapitre 2, il dit « Si vous êtes morts avec Christ aux principes alimentaires qui régissent le monde, pourquoi si vous viviez dans le monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car ils indiquent un culte volontaire de l'humilité ou le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. L'enseignement humain, les règles, les mythes, les philosophies différentes ne nous changent pas. Certes, ils peuvent changer notre comportement pour un peu de temps, mais ils ne peuvent changer nos cœurs. Ils ne peuvent pas nous sanctifier ou nous rendre davantage conformes à l'image de Jésus. Pourquoi? Les règles humaines, les théories, les mythes, la discipline, l'introspection intérieure malsaine, ces choses-là ne nous permettent pas de connaître Dieu. Ces choses-là nous conduisent à mettre notre confiance en nous-mêmes. Si on y arrive, si on est discipliné, on se flatte, on s'auto-justifie. Et au final, on croit à tort qu'on n'a pas vraiment besoin de Dieu. On ne connaît pas Dieu. Mais la plupart du temps, les règles humaines nous conduisent, si nous sommes suffisamment lucides et honnêtes, au constat qu'on n'y arrive pas. On est loin de Dieu. On ne connaît pas Dieu. On est incapable de lui plaire. Si l'évangile que nous vivons est simplement une liste de règles humaines, nous serons vite découragés. Nous nous sentirons condamnés, souillés, démoralisés. Nous deviendrons amers, critiques et défensifs. Mais l'évangile de la grâce peut nous changer parce qu'il nous conduit à connaître Dieu tel qu'il est vraiment. Il nous conduit à Jésus, au pied de la croix, au plein pardon, à l'amitié constante avec Dieu. Le chrétien face à son péché n'a plus à se reculer devant Dieu. Il ne craint plus sa condamnation, car Jésus a déjà été condamné une fois pour toutes à sa place. Donc il peut regarder vers son Père céleste et il peut le voir plein de grâce, plein de compassion. Et ça malgré son péché, malgré ses échecs de tous les jours, malgré ces choses, il peut voir Dieu les bras grands ouverts. C'est à cause de la grâce, le fait d'être justifié gratuitement, que nous pouvons oser nous approcher de Dieu et nous repentir de notre péché, lui dire pardon pour nos nombreuses fautes et nos échecs constants. C'est en vertu de son amour constant qui ne change pas que nous pouvons revenir dans sa présence, sans crainte de condamnation, attirés comme des mouches à sa lumière bienfaisante, bonne et salutaire. Moi, je ressemble pas mal à mon père, pas que physiquement. En fait, les ressemblances sont plutôt au niveau de la mentalité et des habitudes, de bonnes et mauvaises habitudes. Et j'ai dû les apprendre un peu à ses côtés, en grandissant à ses côtés, en l'imitant sans le savoir. Alors l'œuvre de Jésus à la croix, le plein pardon qu'elle procure, nous permet de rester, de nous attarder dans la présence de notre Dieu et Sauveur, de le contempler. Malgré nos fautes, en dépit de nos imperfections, nous ne serons plus jamais rejetés. Et en nous attardant dans sa présence, nous sommes rendus conformes, petit à petit, à son image. Nous commençons à porter des fruits dignes de lui. C'est parce que nous nous savons pardonner dans notre conscience que nous pouvons nous approcher de Dieu. Notre conscience ne nous condamne plus parce que Dieu ne nous condamne plus. Cette liberté de conscience nous permet de revenir à Dieu, de confesser nos fautes. Elle nous permet de revenir à Jésus, à nous attarder dans sa présence, à nous réjouir en lui, à le remercier, à lui dire toute notre reconnaissance. Et quand nous sommes en train de faire ça, l'Esprit de Dieu est puissamment à l'œuvre pour nous changer, pour renouveler notre intelligence, pour changer nos désirs, pour changer notre volonté et notre cœur. Et lui peut nous rendre aptes ou capables de produire de belles œuvres. C'est pour ça que Paul dit au verset 15, donc c'est un verset un peu difficile, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, la intelligence et la conscience sont souillées. » Ces faux docteurs sur l'île de Crète ne connaissent pas la libération d'une bonne conscience, de la libération de se savoir pardonné, aimé, justifié, adopté une fois pour toutes. C'est pour ça qu'ils ont recours aux règles, à l'enseignement humain. Ils essaient de purifier la conscience souillée. Alors comment nous immuniser contre ces choses ? Paul exhorte Tite au verset 13 à tenser vertement les chrétiens de Crète qui succombent à l'enseignement de ces faux docteurs. Pourquoi ? Pour qu'ils aient une foi saine. Paul veut qu'ils gardent, qu'ils s'accrochent à la vérité transformatrice de l'Évangile. Il faut que ce soit la grâce qui soit le moteur de notre vie chrétienne et non pas les œuvres, non pas les règles humaines. Est-ce le cas pour nous? Est-ce le cas pour vous? On a commencé la vie chrétienne en recevant la grâce, le pardon de Dieu, en faisant confiance à Christ. Et Paul nous dit qu'on continue la vie chrétienne de la même manière. Ça ne change pas. Ce n'est pas la grâce au début et ensuite les œuvres, les règles humaines pour aller plus loin. C'est toujours par la grâce, toujours par le pardon. Puisque Dieu nous voit cachés en Christ, couverts de sa justice, tu es plein de compassion pour nous. Ça, quels que soient nos échecs. Et c'est cette connaissance-là qui nous permet de courir vers lui, comme une mouche attirée par la lumière, pour nous repentir de nouveau, de mettre notre foi en lui et de marcher en nouveauté de vie. Remercions Dieu quotidiennement pour son amour, pour son pardon, pour cette justice de Jésus qui nous couvre. Et vivons transformés par cette vérité dans la puissance de l'Esprit. Je vous invite à la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci pour l'apôtre Paul qui a lutté contre ces faux enseignants pour que nous puissions avoir la parole et pour que nous puissions avoir une foi saine. Notre Père, je te demande de nous protéger des règles humaines, des mythes séculiers. Aide-nous à être centrés sur ton Fils, sur la grâce, sur Christ crucifié. Puisse cette vérité transformer nos cœurs. Aide-nous à revenir avec confiance à ton trône de grâce. Puisse cette réalité de la grâce être au centre de nos vies. Père, tu connais les obstacles, parfois les mensonges qu'on a cru qui nous empêchent de vraiment saisir cette grâce. Et nous te demandons de nous aider à croire, à mettre notre confiance en ton Fils, à savoir dans notre foi intérieure que nous sommes réellement pardonnés, et ça pour toujours, en vertu de l'œuvre de Jésus. Je prie Seigneur pour cette semaine que tu nous aides à vraiment vivre de cette manière-là, dans la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Trevor. Alors juste quelques annonces. Ce midi, il y a un pique-nique